tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, il est rare que lorsqu'on pose la question à des personnes de leur travail, de ce qu'ils font, on puisse vous répondre « Mon travail, c'est de faire le bien ». Et pourtant, il y a des gens qui peuvent répondre « Oui, mon travail, c'est de faire le bien ». Dans les yeux noirs de Kaouzer Meshalal, on lit une détermination à faire le bien. Et elle va nous parler justement de sa profession à l'intérieur d'une association mal connue qui s'appelle Aurore et qui a vocation à faire le bien de toutes sortes de manières. Aurore existe maintenant à Périgueux et nous allons apprendre comment elle fonctionne et ce qu'elle fait. Kaouzer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de parler pour RLP. Quel est votre travail au sein d'Aurore et qu'est-ce que c'est qu'Aurore ?
Bonjour, avant tout je tiens à remercier RLP de donner la parole à l'association Aurore et nous permettre de nous présenter. Donc Aurore, c'est trois grandes missions, héberger, soigner et accompagner et insérer. Donc c'est trois missions principales. Donc des personnes en situation de précarité, vulnérables, des personnes en exclusion principalement. Donc on est présent dans sept régions et principalement en Île-de-France avec pas mal de personnes que nous accompagnons, à peu près 37 300 personnes que nous accompagnons, voire un peu plus. À Périgueux, c'est des appartements de coordination thérapeutique. Ici, nous avons 11 places, donc 11 personnes que nous accompagnons, que nous hébergeons, que nous soignons et que nous essayons d'insérer. C'est également donc, basé à Brantôme, un centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, avec ici 35 places. Donc 35 personnes également, des usagers de drogue, dont l'objectif est de s'abstenir, donc de consommer, avec bien évidemment à terme une insertion professionnelle.
Est-ce que vous pouvez, alors ça c'est le paysage de votre action dans le Périgord, mais est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs quelle est l'origine de cette association, puisque c'est vraiment très original? Et c'est une association, en fait, qui est très ancienne.
Très ancienne. Elle est, Aurore est née en 1871. Donc, en 1871, c'était vraiment des personnes en exclusion donc, et marginalisées de la société. Mais rapidement, s'est présentée donc, la lutte contre le sida et ces personnes qui étaient les premières exclues. Ensuite, ça a été vraiment les personnes précaires et ça a toujours été les personnes précaires. Et,
voilà, votre clientèle, si je puis dire, c'est vraiment les gens qui sont complètement exclus de la société, puisqu'au départ, si j'en crois ce que j'ai lu, l'association Aurore, c'était une association d'aide et de réinsertion des libérés, c'est-à-dire des gens qui avaient été prisonniers très longtemps. Se retrouvaient dans la société en étant complètement déphasés et démunis.
Tout à fait. Donc les premiers, c'était bien ces personnes-là. Donc on peut se retrouver très rapidement exclus. très rapidement marginalisés et donner les outils en fait d'une autonomie active et de permettre de se réinsérer socialement, c'est là notre enjeu et notre défi pour accompagner toutes ces personnes. Moi, j'ai intégré l'association Aurore en 2016, particulièrement donc pour accueillir des familles réfugiées, donc des réfugiés de guerre d'origine de Syrie, et ça a été ma principale activité. Là, on revient également à une forme d'exclusion aussi, une forme de marginalisation, très loin de la langue française, très loin des repères d'insertion. Donc c'est donc tout ce travail pendant un an, j'accompagnais des personnes.
Cette action, l'action d'Aurore, en quoi elle se différencie de celle des associations comme le CADA France Terre d'Asile par exemple, qui aussi s'occupe de demandeurs d'asile? Vous avez d'autres associations qui s'occupent de réfugiés qui peuvent avoir obtenu le droit d'asile. Vous, qu'est-ce qui détermine votre action et la sélection des personnes dont vous allez vous occuper?
Alors, toutes ces associations-là, donc les CADA, France Terre d'Asile, d'ailleurs, au sein d'Aurore, nous avons des CADA et des accueils pour demandeurs d'asile également, des accueils pour des femmes isolées également. Donc, on travaille vraiment sur des personnes vraiment marginalisées, qu'elles soient vraiment de toujours. La différence, je crois qu'il n'y en a pas, parce qu'on fait vraiment ce même travail-là d'accompagnement et d'insertion. La particularité chez Aurore, au niveau des réfugiés principalement en Dordogne, c'est que nous accueillons des réinstallés, donc des personnes qui ont déjà leur titre obtenu, leur droit d'asile et leur titre dans leur statut de réfugié. C'est vraiment cette distinction-là. Il n'y a pas tous ces arcanes donc de administratives là au niveau des réfugiés. Au niveau de l'accompagnement...
Oui, mais donc des personnes ou des familles qui commencent une nouvelle vie en étant totalement démunies.
En étant complètement démunis à tous les niveaux, donc matériellement, moralement, psychologiquement, matériellement, enfin financièrement également, donc vraiment à tous les niveaux. Donc petit à petit, on leur donne des outils d'autonomie. On la veut active parce qu'on les accompagne pendant une durée d'un an. C'est très court, c'est très frustrant pour moi, enfin accompagnante. Donc
c'est... Ah oui, alors ça c'est une règle de l'association, une règle ancienne, alors... ou bien c'est quelque chose qui est statutaire et récent?
Non, alors c'est ces projets d'accompagnement qui veulent que ce soit d'une durée d'un an pour dans l'obtention des droits communs, donc rapidement, et ensuite ils sont accompagnés, ces personnes-là, par le droit commun, par les tiers, donc les assistantes sociales de secteur. Il y a tout un travail territorial qui est fait par tous ces acteurs-là également, et ils deviennent des citoyens lambda, donc ils retrouvent les repères sociaux.
Oui, ils ont le droit de chercher du travail, et donc voilà, c'est à eux aussi de faire les efforts en étant encadrés par toute l'armature sociale officielle.
Tout à fait.
Mais est-ce que vous avez affaire quelquefois à des gens qui sont dans une situation telle qu'au bout d'un an, beaucoup de trop de difficultés? Vous m'avez parlé, je crois, d'une famille où... Qui a beaucoup d'enfants polyhandicapés. Comment font-ils, ces gens-là?
Alors, là où c'est plus difficile, où les un an, et on le voit, sont très courts, c'est là où, effectivement, les familles ont des personnes très vulnérables, donc où l'handicap est présent, où les difficultés mentales et psychologiques ne sont pas encore... réglé. Donc là, c'est encore plus long. Donc il y a un autre travail qui se fait, et on essaie vraiment de ne pas laisser, même au bout de ces un an, ces familles-là seules. On continue à les suivre, bien évidemment, on continue à être présent, et en tout cas on essaie, malgré les difficultés, le peu de temps que nous avons, mais en tout cas on continue à l'être, et on compte bien évidemment beaucoup sur les bénévoles qui sont vraiment présents et qui accompagnent ces familles-là, et toutes les associations autour, et également les institutions qui sont également très présentes auprès de ces familles.
Alors je vois que vous avez 1300, moi j'ai un chiffre de 1300 bénévoles, vous avez peut-être un chiffre différent, mais alors moi j'ai plein de questions à vous poser. Comment se fait-il que l'action de l'association se soit concentrée dans l'Île-de-France d'abord, et ensuite essaimée dans les régions? et en particulier dans la nôtre, à une date assez récente finalement.
Oui, depuis un certain nombre d'années, elle était déjà présente ici à Brantôme, donc à Brantôme. Ensuite, 1300 bénévoles, effectivement, au niveau national. Pourquoi s'être concentré donc sur l'Île-de-France, parce que c'était au départ, elle est née là-bas, l'association. Donc, elle a vu le jour en Île-de-France. Et on voit également la difficulté, la concentration, j'ai envie de dire, de ces familles. Parce que les institutions qui statuent au niveau de l'asile sont situées aussi à Paris, que ce soit donc l'OFPRA, que ce soit l'organisme qui détermine leur statut sont là-bas. Ça, on parle vraiment des réfugiés réinstallés, mais pour les personnes exclues et vulnérables, on sait que les grandes villes sont malheureusement très touchées et très, très impactées par la pauvreté. Donc on va trouver beaucoup plus de personnes dans ces grandes villes. Nos présences sur les territoires, ça permet un petit peu de désengorger ces grandes villes, mais aussi de les insérer, de leur faire découvrir la belle province que nous avons.
Et si j'ai bien compris, vous vous intéressez en priorité aux gens qui sont en famille?
Non, alors au niveau national, il y a des personnes isolées, bien évidemment, il y a des mineurs non accompagnés également, il y a vraiment tout ce type d'accompagnement. Je suis coordinatrice dans le projet donc des réinstallés. Donc effectivement, jusque-là, j'ai accueilli une vingtaine de familles en Dordogne. Donc,
depuis
2016. Donc moi, je me suis concentrée essentiellement sur les familles, l'accompagnement à la scolarité des enfants, un grand vecteur de l'apprentissage de la langue française et de l'insertion. On a accompagné les adultes dans leur recherche d'emploi, dans leur insertion également. Donc c'est vraiment un travail global, un accompagnement donc intergénérationnel. Tout âge, on a notre premier bébé arrivé, il naît ici, donc jusqu'à 85 ans. Non ?
Alors, les personnes qui sont pas en famille et qui ne sont pas des personnes qui ont reçu le droit d'asile, qui étaient réfugiées, elles ont quel profil ? Vous avez parlé tout à l'heure de l'aide que votre association a apportée et peut-être continue à apporter aux personnes victimes du sida. Quel est le profil de ces personnes?
On a de tout profil. Hein. Aujourd'hui, la marginalisation, l'exclusion, elle touche vraiment tout le monde. C'est pas, d'abord, c'est pas le clochard qu'on connaissait à l'époque qui a été marginalisé, etc. Tout le monde, du jour au lendemain, peut le devenir. Tout le monde peut être touché par cette exclusion. Donc, les profils varient. On a des femmes, des enfants, des mineurs, on est soucieux au niveau national de toutes ces problématiques et particulièrement vraiment en Île-de-France et petit à petit dans les provinces.
Est-ce que depuis que vous travaillez à Aurore, vous avez noté une augmentation de la fréquentation ou bien de la pression des gens qui devraient mériter votre soutien en raison de leur situation, ou bien est-ce que c'est à peu près stable, ou est-ce que vous avez des limitations? J'imagine que vous avez des limitations qui proviennent des moyens dont vous disposez et dont vous allez nous dire quelques mots aussi.
Mais effectivement, hein, on est limité au niveau des moyens. Donc là, on a, je parlais de places tout à l'heure, donc on a effectivement des places. On espère pouvoir obtenir d'autres places pour aider d'autres personnes, parce que la vulnérabilité, l'exclusion, la pauvreté touche beaucoup plus de personnes aujourd'hui. Et elle va en augmentant malheureusement. Donc effectivement, d'autres personnes ont besoin, on ne peut pas malheureusement aider tout le monde.
Vos ressources proviennent d'où ? De dons de...
Alors, on a de tout. On a des financements, bien évidemment, des gouvernements en fonction du travail qui est fait, en fonction des personnes que nous accompagnons. Il y a effectivement des subventions européennes aussi, notamment dans l'accueil des réfugiés. Donc,
Ça, c'est des moyens que vous devez demander. Donc, ça doit faire une montagne de paperasse, de dossiers à constituer.
Oui, oui. Bon, ça, c'est nos collègues qui sont occupés, mais effectivement, ça fait beaucoup de travail et beaucoup de demandes pour pouvoir coïncider les budgets avec notre action.
Votre installation en Dordogne, bon, vous avez fait allusion à ce qui préexistait à Brantôme. À Brantôme, vous étiez installé depuis quand?
Une
trentaine d'années, ah oui. Oui,
donc,
vous avez probablement un public qui a complètement évolué et changé.
Complètement. Complètement, et les vulnérabilités diffèrent d'année en année, elles augmentent et elles évoluent aussi, malheureusement. Donc des publics différents d'année en année.
Si on laisse de côté les familles de réfugiés, est-ce qu'il y a une tendance à un rajeunissement des exclus au fil des années récemment? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de la précarisation des jeunes et qui est un fait. Hein.
Alors, c'est un fait, ça c'est indéniable. La précarisation des jeunes est un sujet qu'on aborde également de par nos accompagnements. Beaucoup au niveau à Brantôme, justement, sur les usages de drogue, enfin de tout type d'addiction. Donc ça qui touche particulièrement les jeunes. Donc c'est un grand travail qu'on fait pour lutter donc, contre toutes ces addictions et qu'il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire et à Brantôme et ici à Périgueux qui tous les jours aident ces personnes à s'en sortir.
Est-ce que vous pouvez donner à nos éditeurs une idée de la manière matérielle dont vous fonctionnez ici à Périgueux, c'est-à-dire combien de logements, combien de personnes encadrées? Non, c'est défendu.
Non, du tout.
Quel personnel avec qui vous tournez? Vous m'avez fait visiter une partie de vos locaux tout à l'heure.
Alors, on a vraiment une équipe pluridisciplinaire, une coordination médicale, un accompagnement des résidents dans l'élaboration des projets socio-professionnels afin qu'ils accèdent à un logement et aux droits communs. Donc, on est à peu près ici, on est une dizaine ici à Périgueux en équipe pluridisciplinaire et plus de 35 à Brantôme. Donc une équipe d'éducateurs spécialisés, d'encadrement technique, des infirmières, des psychologues.
Des infirmières et des
psychologues. Ah oui, donc vraiment c'est un accompagnement et un corps médical qui aide au maximum ces personnes dans leur projet et dans leur insertion socio-professionnelle.
Ça représente combien de personnes alors, les personnes que vous aidez, que vous encadrez?
Du coup, 30, 35, voire 40 à Brantôme et un peu plus de 11 ici à Périgueux. Et une vingtaine de familles dans le cadre des réfugiés. Donc, tout le monde fait avec
une vingtaine de familles
réfugiés, en plus, oui.
Ah bon, alors ça fait presque au moins une centaine de personnes.
Un peu plus déjà pour les familles réfugiées, on a plus d'une centaine de personnes, 120, et un peu plus en accompagnement. Donc on travaille sur les émotions, sur la relation à l'autre, sur le pouvoir d'agir. Donc ça, mes collègues, que ce soit à Brantôme ou à Périgueux, font ce grand travail-là. Voilà, donc c'est cet accompagnement qui permet vraiment, en tout cas, de leur donner les billes, les outils d'une meilleure insertion.
Est-ce que vous suivez, alors j'ai encore des questions indiscrètes, est-ce que vous suivez les gens que vous avez accompagnés, comme vous dites, pendant un an? Après, quand vous les avez lâchés dans la nature, pour voir si vraiment ça marche à peu près pour eux, ou bien si ils replongent dans la précarité.
Alors, on a des retours, bien évidemment, et c'est un travail qui est fait par mes collègues. On essaie au maximum d'avoir ce type de retour, de voir où c'est qu'ils en sont. On les reçoit même des années après. Certains même sont devenus salariés à l'association. Donc, il y a vraiment un accompagnement et dans l'insertion et dans la formation. Et ensuite, pourquoi pas devenir salarié à Aurore. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on suit de très près et qui nous tient à cœur.
Maintenant, si vous voulez bien, on va parler un peu de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à faire ce métier qui paraît extrêmement difficile et prenant et puis plein d'embûches finalement? Qu'est-ce qui vous a amené là?
Mais d'abord, donc moi j'ai découvert ce monde, le monde de travail dans le social. À quelque part, toute ma vie, on a toujours fait du social dans la cité où j'ai grandi, au sein de ma famille. Donc on a toujours fait un petit peu cet accompagnement-là. Sans le vouloir, on est destiné à cette passion parce que ça en devient une passion. Et moi j'ai découvert vraiment ce métier-là et c'est donc j'étais bénévole au sein de plusieurs associations, donc pendant plusieurs années. En plus de mon activité salariée, j'étais dans la finance pendant plus de 10 ans. Et tous mes lundis où je ne travaillais pas, les mercredis que j'avais étaient destinés à des actions bénévoles, à l'aide aux autres. Et je pense qu'on peut tous donner un moment de soi aux autres. Et plus on aide les autres et plus on s'aide soi-même.
Un jour, vous avez décidé d'abandonner. Alors, vous étiez dans quel secteur de la finance ?
J'étais à la banque, donc...
Un jour, vous avez décidé d'abandonner la banque pour devenir travailleuse sociale à 100%.
Alors non, on m'a fait cette proposition parce que j'étais bénévole au sein de l'association Aurore aussi. Mon directeur, lui, M. Philippe Van Mel, m'a accompagnée, m'a aidée dans cette découverte d'activité. Du jour au lendemain, on m'a fait une proposition que je n'ai pas pu refuser parce que c'était vraiment ce que j'aimais faire.
Ça correspondait à ce que vous vouliez faire et Exactement. Beaucoup plus que ce que vous faisiez d'une manière marginale avant avec votre profession dans la banque. Exactement. Mais vous avez fait allusion au fait que depuis votre enfance, vous étiez en contact avec l'action sociale. Est-ce que ça vient de votre origine familiale ? Est-ce que vous-même, vous avez connu la précarité ?
Je pense qu'on la connaît tous à un moment donné dans sa vie. On connaît à un moment la précarité. Je pense qu'elle est essentielle aussi pour pouvoir rebondir et pouvoir apporter le meilleur. Et c'est des passages, des fois, qui permettent justement de se connaître soi-même et d'être en mesure d'aider aussi les autres, d'avoir ces outils-là. Effectivement, ma jeunesse, mon enfance, enfin, je remercie mes parents, mais ma jeunesse, mon enfance m'ont permis vraiment de... Elle n'a pas toujours été facile. Donc, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, la précarité de très près, parce que, le quartier où j'ai grandi, c'est vrai qu'on était entouré de personnes précaires et nous-mêmes, on a vécu dans la précarité.
Vous avez passé votre enfance ou votre adolescence dans la région parisienne ou dans le Périgord ?
Non, mon enfance a été dans la région senonnaise. Donc je transmets mes salutations aux habitants de Senon, en Gironde, Senon-la-Marèque particulièrement, tout près de Bordeaux. Voilà, donc une ville qui a permis en tout cas aux jeunes de grandir, de faire énormément de choses aujourd'hui. Et ça, ce sont des forces qu'on a pour...
Vous avez quand même un ancrage territorial qui est sérieux, là. Si vous avez grandi à Senon, ensuite vous avez migré à Périgueux, c'est pas trop loin. Mais effectivement, les besoins, la précarité est partout.
Elle est partout.
Est-ce que le travail que vous faites, est-ce que vous arrive de regretter d'avoir fait ce choix de dire voilà, je vais travailler social à plein temps
Est-ce que
vous n'êtes pas, en d'autres termes, est-ce que vous êtes mangé par votre travail en disant oh, mon Dieu, je suis en train d'essayer de vider l'océan avec une petite cuillère, on n'y arrivera jamais
Non, je suis juste j'apporte juste ma petite aide, vraiment minime, et j'encourage vraiment beaucoup de monde à le faire. Non, je ne suis pas noyé et non, j'aime ce que je fais.
Vous ne baissez jamais les bras, vous n'êtes pas jamais désespéré.
Si, ça m'arrive, hein. J'ai des moments de doute, des moments d'inquiétude aussi, parce que je me dis, mais comment aider au maximum ces personnes ? Mais la vie est telle que je ne me pose pas trop de questions. La seule chose que j'essaie de faire, c'est grâce à mon équipe, grâce à mes collègues, grâce à la famille aussi, d'aider au maximum. De regretter, non. Non, je regrette absolument pas.
Qu'est-ce qui vous gratifie le plus dans votre métier ?
Alors, j'aime le sourire. J'aime revoir le sourire, en tout cas, dans le visage de ces personnes-là. Des instants de joie, des instants de partage. On en a vécu et on en vit encore. Et ça, c'est pour moi, qu'une personne me dise on a gagné 10 ans, quoi. qu'on avait perdu. On pensait avoir perdu 10 ans dans notre vie, mais finalement, on a rattrapé ces années perdues. Ça, c'est gratifiant. De revoir un sourire dans le visage des enfants qui ont fui la guerre, ça, c'est gratifiant. Voilà, c'est des symboles, peut-être insignifiants pour certains, mais voilà, qui ont une grande importance à mes yeux aujourd'hui.
Est-ce que votre travail vous laisse le temps d'avoir d'autres passions? Est-ce que vous avez des loisirs et qu'est-ce que vous en faites?
Oui. Oui, oui, beaucoup de loisirs.
C'est une question que je pose toujours à la fin.
Non, beaucoup de loisirs et beaucoup parce que je partage ces moments en fait d'aide à l'autre. Je les partage également comme des moments de plaisir et de loisirs en famille avec mes enfants. Aller à la mer, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui m'oxygène énormément. Faire du cheval.
Parce que ça fait partie des activités que vous proposez aux personnes dont vous vous occupez.
C'est possible. C'est possible,
voilà.
Oui.
Donc vous faites des sorties à la mer en été.
Des sorties à la mer en été, les familles, en l'occurrence, que nous accompagnons, l'ont fait. Et sont très heureux d'avoir à proximité ce magnifique océan, donc d'aller sur les dunes à Arcachon et autres. Donc ça, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup et qui aujourd'hui, on l'a fait avec les familles. Et moi, personnellement, oui, je m'accorde ces moments-là parce que
c'est des moments de semi-liberté parce que vous êtes quand même toujours avec les gens dont vous vous occupez.
Mais je pense qu'à un moment donné, on a, je pense, dans les sociétés, c'est trop individualisé, j'ai envie de dire. De vivre ensemble, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre. Ça ne doit pas juste être des mots qu'on lance, c'est-à-dire qu'on peut passer des bons moments avec ces belles personnes. Voilà, tout dépend comment c'est considéré dans le mental, mais ça fait partie, en tout cas, du mien.
Parmi les gens dont vous êtes occupé jusque-là, est-ce que vous avez rencontré des personnes extraordinaires dont vous êtes dit, bon, celle-là, elle va avoir un avenir formidable dès qu'elle aura repris son équilibre?
J'ai rencontré toutes ces personnes sont extraordinaires, sincèrement. J'en ai rencontré une particulièrement qu'on a accompagnée, qui a un grand handicap physique, mais qui intellectuellement brille, moralement brille, qui m'a donné plusieurs claques. Plus je l'accompagnais, et plus j'apprenais. Plus j'étais avec lui, et plus j'apprenais sa notion des choses, sa vision des choses. Il me disait toujours petit à petit, fais les choses petit à petit. Et il prenait le temps, il prenait le temps. Et c'est vrai qu'on omet souvent de prendre le temps de vivre l'instant présent, tout simplement. Et cette personne-là, je l'ai trouvée extraordinaire. D'ailleurs, je la salue de là où elle est à la fondation John Bost. Et bon, je ne peux pas dire son identité. Mais arrivée de Syrie en 2016, c'est une personne qui m'a beaucoup appris dans l'accompagnement. Je faisais pour la première fois face à l'handicap. Et j'ai vu sa vision du monde, sa vision des choses et ce temps qu'il prend.
Un double obstacle à franchir, celui d'une réintégration de l'exil et dans le statut de réfugié, et puis celui d'un handicap physique.
Tout à fait. Tout à fait. Là, on est avec cette personne-là vraiment dans tous ses handicaps et malgré ça, un sourire, une patience, une intelligence émotionnelle qui était très forte.
Petite lumière continue à briller en dépit de tout.
Tout à fait.
Kauser, merci beaucoup. Malheureusement, le temps qui nous est imparti se termine. Merci beaucoup de votre témoignage. Nous souhaitons tout le bonheur possible dans votre métier et puis le courage de continuer.
Merci beaucoup. Merci à Radio Libre Périgord.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.